Elle est en studio avec nous, Roxane de la Sablonnière, professeure titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal, directrice du laboratoire sur les changements sociaux, l'adaptation et le bien-être et cofondatrice du projet Intercom. Bonjour Roxane.
Allô Hélène.
Roxane, aujourd'hui, un sujet pas facile. Le titre de la chronique, c'est « Comprendre l'adhésion à l'idéologie masculiniste ». Qu'est-ce qui vous a inspiré cette chronique?
C'est avec mes étudiantes, on a beaucoup discuté d'une série Netflix qui s'appelle « Adolescence ».
Oui.
C'est un garçon, Jamie, de 13 ans, qui a été arrêté pour le meurtre d'une de ses camarades de classe. Donc, en creusant la vie de cet adolescent et de son entourage, bien, on explore plusieurs points de vue, celui des policiers, de l'école, d'une psychologue, des parents, pour essayer de comprendre mais pourquoi il a commis un tel geste. Puis aujourd'hui, on se questionne à savoir pourquoi certaines personnes comme Jamie adhèrent au mouvement masculiniste, parce que c'est vraiment le fond là, de cette série-là. Mm-hmm.
Qui a remporté 8 trophées aux Emmy Awards dimanche dernier.
Oh wow!
Et il faut souligner aussi que votre chronique a été préparée en collaboration avec Annie-Sophie Bourdeau, étudiante au DESS en santé publique, Mégane-Élisabeth Robin, étudiante à la maîtrise en psychologie, et Iliane Mirandette, étudiante au baccalauréat en psychologie. Alors, Roxane, le masculinisme, c'est un sujet qui a fait du bruit dans les médias, notamment avec le documentaire Alpha de Simon Coutu. Je me souviens, là, on se disait, est-ce qu'on va le regarder ou pas?
Tout à fait. Mais c'est intéressant parce que, aussi, c'est important d'essayer de comprendre puis d'aller en profondeur dans ce sujet-là. On ne peut pas juste passer ça
Que c'est une réalité qui existe.
Oui, puis il faut prendre le temps d'en parler aussi. Donc, le documentaire Alpha présente des influenceurs masculinistes qui prône un retour au rôle traditionnel, c'est-à-dire l'homme qui pourvoit et domine et la femme qui prend soin d'autrui et qui se soumet. Donc, le discours soutient un caractère contrôlant, parfois haineux et violent envers les femmes. Il y a aussi des enseignants qui rapportent de plus en plus que les élèves tiennent des propos offensants à caractère sexuel, même à leur égard. Donc, puis également, récemment, on a beaucoup entendu parler dans la sphère politique américaine, il y a certaines conceptions masculinistes qui sont intégrées au discours plus conservateur pour tenter de séduire un électorat féminin qui est moins orienté vers la droite. Donc, souvent, c'est basé sur des interprétations bibliques. Ces discours encouragent les femmes à mettre de l'avant le rôle de mère, d'épouse obéissante et à rejeter l'égalité homme-femme et à mettre au second plan leur carrière. Puis cette semaine, dans la presse, ce dimanche, je crois, il y avait l'exemple de Ellie Ersun, une jeune femme de 19 ans qui a dit « Il est temps qu'on reconnaisse que Dieu a créé des hiérarchies dans ce monde. Être une femme conservatrice, c'est savoir s'y soumettre. » Donc, ce qu'on voit au fond, c'est que le discours masculiniste, c'est pas nouveau. Il y a aussi une histoire et qui se répète dans des contextes différents et aujourd'hui encore plus avec l'ère numérique.
On entend souvent le mot masculinisme, mais qu'est-ce que ce concept signifie exactement, Roxane?
La définition, c'est un mouvement social conservateur ou réactionnaire qui prétend que les hommes souffrent d'une crise identitaire parce que les femmes en général et les féministes en particulier dominent la société et les institutions. Donc, il y a des hommes qui vivent ces bouleversements sociaux comme une menace à leur rôle, une menace à leur conception de la masculinité. Et puis, le masculinisme défend donc cette crise de la masculinité en amenant les hommes à reprendre leur pouvoir et à justifier leurs souffrances, par exemple les suicides, les échecs scolaires, l'isolement, par des transformations sociales perçues comme étant défavorables aux hommes.
Mais d'où vient le masculinisme? Comment ça s'est développé à travers les années?
Bien, en fait, c'est pas nouveau. C'est apparu dans les années 1970, après les transformations sociales importantes et culturelles, entre autres pour les femmes, les personnes issues de la diversité aussi. Donc, le masculinisme se structure en un véritable mouvement social dans les années 1990-2000. Donc, il y a eu une évolution. Et puis récemment, évidemment, avec les algorithmes, on en a beaucoup parlé. On en voit de plus en plus. Ça se polarise, d'ailleurs, et il y a une normalisation des positions qui sont de plus en plus extrêmes également.
Vous mentionnez des transformations sociales et culturelles. Quels facteurs sociaux favorisent l'adhésion au mouvement masculiniste?
Bien, il y a beaucoup de facteurs. Parmi ceux-ci, il y a la précarisation des emplois qui sont traditionnellement masculins et la perte du rôle de pourvoyeur dans certaines familles. Donc, ça nourrit des sentiments de déclassement et d'humiliation. Par exemple, si le revenu de la femme d'un foyer est plus élevé, bon, pour la femme que pour l'homme, bien, il peut y avoir certaines colères qui sont vécues de la part des hommes, ou juste de savoir que les femmes peuvent gagner plus que les hommes. Ça peut amener ce type de sentiment. Puis ce qui arrive, c'est que c'est une colère qui est dirigée non pas comme les institutions sociales ou économiques, comme la politique, par exemple, mais dirigée contre les femmes et les personnes immigrantes. Donc, il y a plusieurs méthodes ici qui existent, comme l'homme émasculé, l'homme blanc oublié, puis les politiques de diversité et d'inclusion, bien, ils défavorisent ces positions-là aussi.
De leur point de vue.
Exactement, ouais. Exactement.
Concernant les facteurs individuels, qu'est-ce qui attire certains hommes vers le masculinisme?
Bien, selon les chercheurs ou certains chercheurs, il y a certaines vulnérabilités que des hommes peuvent avoir. Par exemple, une conception plus rigide ou méfiante qui peut promouvoir des moyens plus hostiles ou violents contre les femmes. Donc, il y a certains hommes qui n'entrent pas nécessairement dans les codes culturels masculins typiques ou classiques. Il y en a qui n'ont jamais eu de relations sexuelles ou de copines. D'autres n'ont pas vraiment une apparence physique et très musclée. Ou bien, il y en a qui ont vécu beaucoup d'intimidation aussi. Donc, il y a plusieurs éléments qui peuvent attirer certaines personnes à aller vers cette idéologie qui, en retour, va aussi amplifier leur vulnérabilité. Donc, une des pistes de solution, parce que eux, c'est ce qu'ils voient comme solution, d'aller vers ce discours-là, mais une des pistes de solution pour éviter que les garçons glissent ou basculent dans la violence, c'est de vraiment favoriser un espace de parole. Donc, on est toujours tenté comme humain de ne pas vouloir en parler, c'est trop difficile, on veut se fermer les yeux, se mettre la tête dans le sable, mm-hmm. mais de prendre le temps de les écouter, d'essayer de voir que d'autres pistes de solutions que les mouvements plus extrêmes, par exemple dans les discussions, dans les salles de classe, ça pourrait être intéressant, ou avec les parents si on s'en laisse.
Et cette menace identitaire ressentie par certains hommes, ça vient d'où?
Bien, je vais répondre à la question en faisant un parallèle justement avec la série Adolescence. Donc, cette série est dédiée à une figure en particulier. Donc, il y avait 4 épisodes. Donc, un épisode pour l'école, la police, la famille et la psychologue aussi qui a suivi ce garçon. Donc, tout au long, on veut savoir, mais c'est qui est responsable du comportement de Jamie? Est-ce que c'est la police? Est-ce que c'est l'école? Est-ce que c'est la famille? Donc, mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a un responsable qui est invisible, qui est la culture autour de nous aussi. Justement, comme ces algorithmes qui viennent nous influencer sans qu'on s'en rende compte exactement. Donc, c'est peut-être une opportunité de se questionner sur notre culture aussi, sur les attentes qu'on a envers les hommes et les femmes. Pour qu'il y ait un vrai discours qui soit peut-être plus sain entre les deux. Mm-hmm.
Et comment fonctionne le discours masculiniste? Que dit-il aux hommes?
Bien, ce que ça dit en général, c'est que les femmes sont dépeintes comme exigeantes et manipulatrices. Puis ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a comme un paradoxe là-dedans qui s'intitule le paradoxe misogyne, c'est-à-dire que les hommes ont un désir pour les femmes, mais ça s'exprime par la haine. Donc, c'est un peu ce qui est reflété dans le documentaire Alpha aussi. Il y a le désir d'avoir du succès auprès des femmes, et de l'autre, bien, il y a des propos qui peuvent être parfois très violents, tenus entre autres par un géant de ce domaine qui est Andrew Tate.
Mm-hmm. Quel serait le premier pas vers le mouvement radical? Est-ce qu'il y a un point tournant dont il faut se méfier?
En fait, il faut vraiment, comme je disais, c'est un phénomène qui est insidieux.
Ouais.
On peut retrouver des...
Sournois.
Sournois, insidieux. On peut retrouver des idées masculinistes un peu partout sur nos plateformes, des fois dans des petits commentaires aussi, sans trop s'en rendre compte. Donc, puis souvent, ces vidéos, ce qu'on retrouve, les contenus sur Internet, ben, ça peut porter, par exemple, sur l'entraînement, ils vont glisser en douce des messages plus masculinistes. Exactement. Donc, les jeunes vont souvent tomber par hasard sur ces contenus. Puis, s'ils sont attirés ou s'ils ne voient pas d'autre issue ou ils ne se sentent pas écoutés, bien, ça peut être plus facile pour ces personnes-là de glisser vers ça.
Et en terminant, Roxane, est-ce que vous auriez une piste de solution à nous proposer?
Bien, je reviens à l'idée de l'éducation aux médias, l'éducation à l'esprit critique.
On
revient toujours à ça. Puis aussi, il faut se rappeler que ce n'est pas tous les garçons qui tombent dans le masculinisme. C'est un mouvement qui est quand même assez extrémiste, mais il faut quand même prendre le temps d'écouter tous nos garçons, toutes nos filles aussi.
Être à l'écoute. Ouais. Roxane de la Sablonnière, merci beaucoup.
Merci.